Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez plongé sur les enjeux, les défis à relever, et c'est très bien parce qu'on va continuer la matinée en trois temps. D'abord, le temps d'expression du président du département et des parlementaires, et puis ensuite, nous écouterons le politologue Pascal Perrineau. Nous engagerons un débat avec vous à partir de son intervention, et puis viendra ensuite le moment de la clôture du congrès par Madame la préfète Claire Rollin. Mais tout de suite, donc, j'invite Serge Rigal, le président du département, à rejoindre la scène, ainsi que Raphaël Daubé, sénateur, Christophe Prensa, député de la deuxième circonscription du Lot, et Aurélien Pradier, député de la première circonscription. Voilà, messieurs, installez-vous. Un panel masculin, c'est le suffrage universel qu'il a voulu. Mais l'État étant très féminin en train de matiner, on retrouvera de l'équilibre. Alors, vous connaissez la règle du jeu, messieurs. La règle du jeu, c'est 5 minutes d'expression chacun. Et on commence avec vous, Serge Rigal, monsieur le président du département.
Madame la préfète, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseils régionaux, départementaux, mes chers collègues, mesdames, messieurs les maires, mesdames et messieurs, mes chers amis. Permettez-moi de commencer mon discours par une petite citation en rapport avec l'actualité. Le point fondamental de la bonne administration est facile, disait Montesquieu. Il ne consiste qu'à ajuster la dépense à la recette. Cette vérité, pour les gestionnaires des collectivités que vous êtes, que je suis, ce principe de bon sens, pour nous qui sommes dans l'obligation de construire et de voter des budgets à l'équilibre, sous peine de sanctions, apparaît comme une évidence. Et pourtant, cette évidence ne va pas forcément de soi lorsque nous quittons le monde des collectivités. Le nouveau gouvernement vient de découvrir un joli cadavre dans le placard par l'ancienne majorité présidentielle. Minorité qui est d'ailleurs toujours au gouvernement et qui soutient. Les comptes publics ont dérapé. La dette publique est énorme, 3 200 milliards d'euros. Et il faut renflouer les caisses. Très bien. Le constat est sans appel. Toutefois, en m'adressant aujourd'hui solennellement devant vous, je voudrais partager ma colère face aux solutions annoncées par le gouvernement. Une colère froide, une colère retenue, mais encore une colère vive. Car ce qui fonde mon engagement politique, c'est le refus des injustices. Or, malheureusement, en voici une énorme qui arrive. Oh, j'entends déjà les excuses. Si l'État est en déficit, c'est parce qu'il fallait relancer après le Covid. C'est qu'il fallait soutenir la guerre en Ukraine. C'est qu'il fallait préserver le pouvoir d'achat des Français face à l'inflation et au choc des prix de l'énergie, etc., etc. Oui, toutes ces mesures étaient nécessaires, utiles et je dirais même obligatoires. Mais, en même temps, ceux qui les mettaient en place savaient pertinemment qu'il y aurait une facture à payer un jour ou l'autre. Or, en même temps, au lieu de gérer au plus près le denier public, qu'ont-ils fait? Ils ont supprimé des recettes fiscales colossales qui alimentaient le budget de l'État. Le temps m'étant compté, je ne prendrai qu'un seul exemple. En 2016, l'impôt des solidarités sur la fortune rapportait 5 milliards d'euros à l'État. Après sa réforme en 2017, parce qu'on a allégé l'impôt des ultra-riches, eh bien, il n'en rapportait environ que 2 milliards. C'est-à-dire que depuis 7 ans, en toute connaissance de cause, les gouvernements qui se sont succédés ont fait le choix d'arroser où c'était déjà mouillé, voire inondé, à hauteur de 21 milliards d'euros. Et en même temps, grâce à ce joli cadeau, notamment les fortunes des 500 familles les plus riches de France, a doublé, passant de 600 à 1200 milliards. Aujourd'hui, ces 21 milliards d'euros, ainsi que d'autres recettes, manquent au budget de la nation.
Une minute.
Et qui va devoir compenser ce qui donne la fortune à doubler. Non. Ce qui fraude le FIS ou la TVA. Non. Car je rappelle aussi que la fraude fiscale représente un manque à gagner de 80 milliards d'euros et celle de la TVA, environ 25 milliards d'euros. Voilà le vrai enjeu d'un budget sérieux. Mais hélas, le gouvernement cède à la facilité et va taper les collectivités locales, c'est-à-dire les gens. Début septembre, l'ancien ministre de l'économie avait déjà tenté de s'exonérer de ses responsabilités en invitant un soi-disant dérapage de 16 milliards de dépenses des collectivités. Un chiffre fantaisiste qui d'ailleurs n'a pas été repris par l'actuel locataire de Bercy, tant il était faux et qu'il est même démenti par le président de la Cour des comptes. Mais même si le nouveau Premier ministre a au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que les collectivités ne sont pour rien dans le dérapage de la dette publique, il n'en demeure pas moins qu'il a décidé de nous frapper fort au porte-monnaie. Oui, nous avons assisté à une purge sans précédent des finances locales, et en voici quelques exemples. Gel de la dotation globale de fonctionnement, dont on réalise une baisse de nos moyens car le coût de la vie augmente. Diminution de 1,5 milliard d'euros du fonds vert. Gel de la part de la TVA allouée aux collectivités. Je rappelle quand même la promesse présidentielle, là encore non tenue, quand on a supprimé les impôts locaux tels que la taxe d'habitation. On nous avait promis une compensation par une recette qui évoluerait positivement. En 2025, même si la TVA rapportera plus, eh bien cela ira non plus dans nos caisses, mais dans celles de l'État. Le fonds de compensation de la TVA sera lui aussi moins généreux pour nous aider à investir en 2025. Et enfin, cerise sur le gâteau, une ponction forcée de 2% des dépenses de fonctionnement pour les plus grandes collectivités. Vous n'êtes pas directement concernés. Mais sachez que pour le département, c'est 5 millions d'euros qui vont disparaître de notre budget. 5 millions d'euros, c'est ce que vous devez rayer d'un trait. L'aide via le FAST à toutes les communes du Lot sur un an. Évidemment, je vous rassure, ce n'est pas ce que nous ferons. Le gouvernement promet que ces 5 millions d'euros seront restitués plus tard. Quand, comment, mystère. Ainsi, quand on plante la situation, vous conviendrez qu'il y a de quoi être en colère, car l'addition de tout ceci s'élève à une perte sèche de 2 millions d'euros pour le département. Il y a de quoi être en colère, d'autant plus que, comme vous le savez, nous avons joué les bons élèves en matière de gestion. Le département a divisé par deux son stock de dettes en 10 ans. Et sur le même temps, et sur la même période, nous avons continué à œuvrer pour l'avenir du Lot en doublant nos investissements directs. À propos de la dette d'ailleurs, là encore, il y aurait à dire, car dans les collectivités sans dette, nous avons l'obligation de financer les investissements. L'État, lui, s'endette pour fonctionner et pour l'investissement, chercher la justice dans ces deux poids et deux mesures. Aujourd'hui, force est de constater que le pacte de confiance qui aurait pu s'installer entre les collectivités et le nouveau gouvernement est rompu d'emblée. Comme ces mesures vont entraîner une casse sociale et territoriale énorme. Mercredi, l'Observatoire français des conjonctures économiques a ainsi alerté sur le fait que le budget de Barnier risque d'amputer la croissance de 0,8 point de produit brut s'il était mis en place. Et au bout du bout, qui va être impacté? Les gens, les simples gens qui ont tant besoin de services publics, qui rendent des services au concret et au quotidien. Là, une aide à une association, ici, à un soutien financier du logement social, là encore, des services pour la petite enfance, ou des personnes âgées. Oui, ce que nous est promis me navre. C'est un gâchis humain à venir. Moins de professeurs recrutés l'année prochaine. On parle de 4000 profs en moins. C'est évidemment une jeunesse qui sera moins bien préparée pour préparer le défi de l'avenir. Et lorsque je dis jeunesse, vous devez dire jeunesse la plus modeste, la plus fragile, parce que l'école de la République, c'est le patrimoine de ceux qui commencent dans la vie sans patrimoine. Moins de moyens pour les communes, pour les départements, les intercommunalités et les régions. C'est aussi moins d'investissements publics dans l'effet de levier sur la croissance de l'économie, des entreprises et pourtant essentiel.
Monsieur le Président, notre contrainte aussi, c'est le temps, une ressource qui n'est pas illimitée comme les autres ressources.
J'ai presque fini.
Presque.
Là, ce sera moins de travaux publics sur les routes, dans les réseaux d'eau, dans les énergies renouvelables, moins d'équipements qui pourront sortir de terre, dont moins d'emplois et moins de croissance. Car faut-il rappeler, nous portons collectivement 70% des investissements publics dans ce pays. Enfin, moins de moyens pour les services publics locaux. Là encore, c'est moins de moyens pour nos citoyens, moins de périscolaires pour les familles, moins de personnel si nécessaire pour nos aînés dépendants, moins de soutien à la culture, au sport, aux loisirs. En résumé, à tout ce qui rend la vie et le présent meilleur. Oui, tout ceci s'annonce comme un terrible gâchis. Et j'espère qu'avec d'autres, vous, messieurs les parlementaires, saurait défendre l'échelon local en portant, lors du budget, du vote du budget, des contre-propositions à l'injustice qui nous est faite. Tout ceci, tous ici, nous avons le lot en partage et nous espérons vivement que vous proposerez tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat des mesures pour préserver les finances locales et non les maltraiter, des mesures de justice fiscale qui vont contribuer et faire contribuer les plus fortunés et non les simples gens à l'effort commun, car il en va de l'intérêt de l'Autoise et des Lotois. Ce lot, nous l'avons en commun, malgré les tempêtes, malgré les difficultés. Je voudrais dire ici combien je crois à son avenir. Pas plus tard qu'il y a 8 jours, à Marseille, notre beau département s'est vu décerner le trophée du 3e département préféré des Français. Et cette réussite, elle n'est pas celle du département, mais c'est une réussite collective à qui on vous doit beaucoup. Donc bravo à tout ce que vous faites pour le Lot. Qualité de vie, cadre naturel préservé, une histoire et un patrimoine plurimillénaire, c'est autant de richesses et d'atouts qui rendent le Lot encore plus attractif. Cette récompense témoigne d'un fort dynamisme qui, depuis 3 ans, fait qu'ensemble, nous arrivons à installer 2 nouvelles familles par semaine dans le territoire. C'est dû au dynamisme et à notre tissu industriel, serviciel, qui fait que nous avons un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, mais c'est également le résultat de politiques publiques innovantes et ambitieuses portées par les acteurs du service public. Nous avons su prendre le tournant de la modernité avec des investissements massifs sur le numérique et aujourd'hui, nous sommes devenus le 10e département de France le mieux équipé en fibre optique. Bref, en se hissant dans le top 3 des départements préférés des Français avec une belle médaille de bronze, le département du Lot, seul en Occitanie, à être primé, innove, surprend et résumant au maillot. C'est un beau symbole de ce que nous pouvons entreprendre. Et malgré les taux budgétaires dans lesquels nous voulons nous enfermer, nous poursuivrons dans ce sens. Alors oui, nous aurons à faire des choix si nous y sommes obligés par le gouvernement. Mais croyez-moi bien qu'un étau à force de combat et de volonté, ça se desserre. Et vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur l'ensemble des conseillers départementaux qui seront à vos côtés pour faire toujours le choix de la justice, le choix de l'avenir du Lot, des Lotoises et des Lotois. Je vous remercie et je suis navré d'avoir été un peu long, mais j'avais des choses à dire.
Merci Serge Rigal, merci Monsieur le Président. Alors maintenant, les parlementaires, chacun pour 5 minutes et on commence avec Raphaël Daubé.
Madame la préfète, mes chers collègues parlementaires, messieurs les conseillers, messieurs, mesdames, les conseillers régionaux, départementaux, mesdames et messieurs, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, les présidents de syndicats, les présidents d'intercommunalité, cher monsieur Pascal Perrineau, mesdames et messieurs, moi je suis évidemment très heureux de m'exprimer devant vous aujourd'hui. C'est un grand honneur. C'est un grand honneur de m'exprimer devant vous parce que je sais ce que vous représentez. Quand on sait ce que représente un maire dans une commune, quand on sait le lien puissant, profond que vous avez tissé avec l'histoire de votre commune, avec son patrimoine, avec un lieu, un village, avec ses habitants, quand on sait combien est difficile la conquête d'une mairie, quand on sait combien est davantage encore difficile l'exercice non pas du pouvoir, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais l'exercice de la fonction et l'exercice de l'action publique. Quand on sait, et ça a été dit, combien les communes, l'investissement des communes et des intercommunalités apporte au territoire, à notre pays, à son économie, combien les collectivités locales sont au fond les bâtisseurs de la France qui transforment le pays et le quotidien des Français. Quand on a conscience de tout ça, eh bien, c'est un honneur de s'exprimer devant vous et c'est un honneur qui plus est de vous représenter au Sénat. Je voudrais remercier aussi Madame la Préfète et les services de l'État pour l'éclairage qu'ils vont nous faire cet après-midi sur la question du protocole. Et si je vous disais ces quelques mots aimables au début de mon intervention, c'est pas du tout pour vous flatter, parce que je sais que vous ne seriez pas dupes, mais c'est parce qu'il est très important de rappeler le rôle et le sens et la fonction de nos institutions dont vous êtes. Et les communes sont la première institution. La commune, c'est évidemment, vous le savez comme moi, la petite république dans la grande, ce que disait un sénateur illustre. Je voudrais remercier Madame la Préfète parce que rappeler ce qu'est le protocole républicain, rappeler ce que sont les institutions, rappeler ce que sont les rituels républicains, ça me paraît essentiel dans une période difficile, troublée, dangereuse pour la République. Et moi, je suis de ceux qui pensent que souvent, la forme a autant d'importance que le fond pour obtenir des résultats. Et je crois que dans la période que nous traversons, les difficultés ont été largement décrites par les précédents orateurs, de dette publique, de déficit public et d'affaissement des principes et des valeurs républicains. Je crois que nous devons aussi nous rassembler autour des institutions et les défendre et faire prendre garde, prendre soin de ces institutions, faire en sorte que les piliers du temple ne soient pas ébranlés. On a entendu évidemment les attaques absolument délétères et insupportables contre les collectivités locales, et Bruno Le Maire, qui portait si mal son nom, a essayé de faire croire que c'était les collectivités locales qui étaient responsables des déficits publics. C'est ridicule. On voit bien quand on profite de cette mauvaise foi pour essayer finalement de s'en sortir et de se faire pardonner un dérapage inquiétant. On voit bien qu'on porte atteinte en fait aux institutions et au respect que la République exige de chacun d'entre nous pour les autres qui sont dans des fonctions différentes. Quand le ministre de l'Intérieur interroge l'état de droit et pour ne pas dire en fait remet presque en question dans un propos certes peut-être un peu rapide l'état de droit, il faut absolument que nous soyons alertés parce que l'état de droit, c'est le cadre impérieux qui fixe les limites au-delà desquelles, vous le savez bien, nous serions en contradiction avec les principes que nous avons collectivement produits et inventés depuis plus de 2 siècles et sans lesquels nous ne saurions garantir la République.
Donc, dernière minute.
Vraiment, je vais en terminer et je veux dire quand même un mot du budget parce que ça va être le temps fort de l'automne pour nous, les parlementaires. Vous savez, le budget, moi, je me fais aucune illusion. Je sais bien qu'il va s'agir d'ajustements budgétaires, comptables. On va faire un budget comptable, malheureusement, alors qu'il faudrait que ce soit un budget politique et il faudrait qu'il y ait de la pensée derrière ce budget. Je me fais pas trop d'illusions et je me doute que ça passera au 49-3, mais néanmoins, je ne veux pas baisser les bras. Et je veux vous dire que je porterai votre voix et j'essaierai, avec d'autres, de faire débat et d'utiliser ce moment du budget pour essayer de redire ce que nous voulons comme sens commun pour ce pays, pour la République. Le budget, pour moi, il aurait fallu que le budget de la nation soit un budget d'abord de justice sociale, c'est-à-dire un budget qui garantit la redistribution des richesses et pas seulement vers la dépense sociale, aussi, et tu l'as dit Serge, vers la reconstruction de ce qui fait le patrimoine commun de la nation, ce patrimoine transgénérationnel que sont les services publics. C'est pas la peine de vous lever parce que j'ai presque terminé. Ce budget, je voudrais que ce soit un budget d'équité territoriale et un budget qui prend en compte l'importance des collectivités locales, ce que l'on disait tout à l'heure. Je voudrais que ce soit un budget de progrès aussi, vous savez, de progrès scientifique, un budget qui pense aux investissements d'avenir, de progrès écologique et de progrès humain. J'ai parfois l'impression d'être le dernier à y croire, mais je crois encore au progrès humain. Et enfin, un budget qui ne méprise pas la place de la France dans le monde, le multilatéralisme européen, international, notre obligation, notre devoir de solidarité et de recherche de la paix dans le monde, c'est la voie de la France. Voilà ce que j'espère du budget. J'espère que ce sera un moment de débat. En tout cas, ce que je voulais vous dire simplement, c'est mon amitié. C'est la poire qui sera servie après le repas, comme toujours, ne vous inquiétez pas. C'est Emma qui la servira. Et puis, voilà, vous dire que nous devons nous rassembler dans ces moments de péril et on voit arriver les dangers, nous rassembler avec cette idée que la République doit être une et indivisible et nous devons la protéger tous ensemble. Merci.
Merci Raphaël Daubé, merci Monsieur le Sénateur. La parole maintenant à Christophe Poncea, député de la seconde circonscription.
J'ai 10 minutes, c'est ça ? C'est ça. Monsieur le Président et Sénateur, cher Jean-Marc, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je tiens à te remercier, Jean-Marc, pour cette opportunité de m'adresser devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette Assemblée des maires du département. Ça a été dit, pour moi aussi c'est un honneur et une immense responsabilité que d'être ici devant vous, je le dis, c'est impressionnant. L'année dernière, j'étais encore à vos côtés et suite à une dissolution surprise et incomprise par beaucoup, j'ai été élu début juillet député. Une aventure assez incroyable en fait et des débuts peu habituels. Après une campagne express et une élection début juillet, comme je vous l'ai dit, nous sommes restés 2 mois sans Premier ministre avec un gouvernement démissionnaire. Depuis septembre, Matignon est de nouveau habité, mais nous découvrons alors la vérité sur les comptes et l'état de nos finances publiques. Comme vous, j'ai été très surpris par l'ampleur du déficit de la France récemment annoncé. Ce que l'on nous a vendu comme les Mozart de la finance, en réalité, ont tout simplement creusé le déficit comme jamais. Tout cela est bien documenté, vous trouverez dans la presse tous les éléments financiers, je ne vais pas m'y attarder. Mais comment a-t-on pu en arriver là, alors que dans nos communes, nous sommes habitués à gérer chaque centime comme si c'était le dernier? Nous allons avoir un déficit supérieur à 6%, ça a été dit aussi tout à l'heure. Et nous payerons l'argent pour nos emprunts futurs à un tarif supérieur à l'Espagne et au Portugal. À retenir, l'effort de 60 milliards demandé tout azimut correspondra à peine au coût des intérêts. Au-delà de la profondeur de la dette et de la discussion toujours possible sur les choix politiques qui ont amené à ce résultat, c'est la découverte si tardive de la situation qui m'interpelle et me choque. Bruno Le Maire est parti depuis en Suisse enseigner la finance. Je ne suis pas certain que les Helvètes attendent avec impatience d'appliquer la même méthode. Le fait qu'il ait désigné les collectivités territoriales, c'est-à-dire nous, comme responsables de la dette a été incompris par tous les élus. Comme mes collègues parlementaires, j'ai eu le loisir d'examiner de près le projet de loi de finances 2025. Et il y a de quoi s'inquiéter. Au niveau du gouvernement, c'est le concours Lépine de la récupération de moyens. Mais la lisibilité et la ligne directrice sont confuses. Nos collectivités votent tous leur budget à l'équilibre, sans déficit, contrairement à l'État. Et notre endettement n'est pas un endettement de fonctionnement, mais un endettement d'investissement, vous le savez. Ce qui est sain et qui prépare l'avenir. Alors, comment ferons-nous demain si la baisse des moyens, ça a été dit, empêche d'investir sur nos territoires? Que ferons-nous de nos routes, nos bâtiments publics vieillissants? Va-t-on laisser tomber nos écoles, nos mairies, nos salles des fêtes et avec elles nos services publics? Prenons l'exemple du sport, que je suis particulièrement. Les coupes budgétaires prévues dans ce domaine sont incompréhensibles. On nous avait pourtant promis que les Jeux Olympiques allaient donner un coup de pouce au développement du sport en France. Les JO ont été un formidable moment de pause et d'union. Nous devrions poursuivre sur ce chemin et aider les clubs et les bénévoles. Nous devons poursuivre la mise à niveau des équipements structurants. C'est important pour la pratique sportive, c'est important pour notre jeunesse et c'est essentiel pour l'attractivité et l'équité territoriale. La situation exige un effort. Nous devons retrouver un équilibre financier. C'est essentiel pour la France. Mais l'effort doit être juste et proportionné. Et là, je le dis, on a trop souvent dénigré l'impôt et beaucoup de politiques font de la baisse de l'imposition l'alpha et l'oméga de la politique publique. Je pense que l'impôt fait lien, qu'il fait société et qu'il doit être compris et accepté comme une participation collective à un projet de société dans la justice et l'équité. Chez nous, dans le Lot, où la population est essentiellement modeste, l'augmentation des taxes sur l'électricité, celle à prévoir des mutuelles et bien d'autres encore représente un véritable danger de déclassement. Je souhaite terminer mes propos par une note plus personnelle et plus légère. J'ai été élu il y a peu, député, je vous l'ai dit, et j'ai quitté ma fonction de maire il y a quelques semaines. Maire, comme vous, pendant 10 ans, d'un village paisible et bien modeste de 100 habitants en bord de Dordogne. Une commune petite, certes, mais c'était la mienne. Et croyez-moi, ce n'est pas si facile de tourner la page. D'ailleurs même, depuis ma démission le 7 août, à chaque fois que je passe dans le bourg, j'ai encore ce réflexe de m'inquiéter pour les fleurs qui bordent la place, la secrétaire de mairie pour voir si elle va bien, de vérifier si les lampadaires sont fermés la nuit. Et comme vous, je contrôlais depuis toujours la tranquillité de ma commune. Et à 2 ou 3 reprises depuis le 7 août, je me suis arrêté pour indiquer à des camping-cars ou des véhicules qu'ils étaient mal garés. Et alors là, un jour, ma femme m'a dit « Mais Christophe, tu n'es plus maire. Arrête !» Eh oui, je suis plus maire. Et en fait, je crois qu'on l'a au corps. Bref, être maire, c'est une seconde de peau. On s'y attache, on y consacre une attention permanente. On fait corps avec sa commune. Et cela me manque déjà. Alors je tenais à vous le dire. Je vous comprends, peut-être mieux que jamais. Et je comprends le poids que vous portez tous ici au service de vos communes. Malgré ces défis, je veux quand même vous rassurer et vous dire ma détermination. Je suis devant vous aujourd'hui en tant que nouveau député, mais je n'oublierai jamais que j'ai avant toute chose été maire, conseiller communautaire et conseiller départemental auprès de Serge. J'ai d'ailleurs souhaité conserver cette fonction de conseiller qui me rattache au Lot et au territoire. Ce lien, il est indéfectible. Je serai votre relais, votre voix, là où les décisions se prennent, à Paris. Je suis prêt à vous écouter, à travailler avec vous pour qu'ensemble nous trouvions des solutions pour nos territoires, parce qu'au fond, c'est bien cela qui compte, que nos villages vivent. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse de ma longueur. Elle est assez courte. Vive le Lot, vive la République et vive la France. Merci à vous.
Merci Christophe Wensa. Merci monsieur le député de la deuxième circonscription, Aurélien Pradier. C'est à vous, député de la première circonscription du Lot.
Madame la préfète, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, j'adresse un salut amical à Pascal Perrineau que je suis heureux de retrouver en dehors de Paris dans les terres lotoises. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, aux maires et aux élus qui sont ici présents et à ceux qui les accompagnent. Dans la démocratie et quand les temps sont durs, il y a 2 manières d'aborder les choses. Il y a les postures politiques, elles sont faciles. Il m'est peut-être arrivé même, moi, d'en faire usage par le passé. Et puis il y a le courage de regarder les choses lucidement, d'éviter de mettre la poussière sous le tapis comme depuis de longues décennies nous le faisons dans ce pays. Et puisque plusieurs élections législatives sont passées par là, que le scrutin universel m'a redonné de la légitimité, je vais plutôt choisir la position du courage que la position de la posture. L'état de notre pays, désormais nous le connaissons. Il y a 2 choses qui sont étonnantes. La première, c'est en effet plus qu'étonnant, stupéfiant, de constater l'état de nos finances publiques. La perte de souveraineté majeure que cela implique, la perte de contrôle quasi intégral sur l'essentiel de nos dépenses. Mais ce qui est étonnant, pardon, c'est que nous nous en étonnions. Au fond, où étions-nous depuis tant d'années ? Où étions-nous parfois nous-mêmes responsables politiques depuis tant d'années ? N'avons-nous pas, ici ou là, aussi vu passer tant de dépenses sans que nous nous inquiétions des conséquences qu'elles pouvaient avoir ? Au fond, il y a une sorte de facilité à jouer les hibernatus. Vous savez, ceux qui se seraient endormis avant que ça n'aille mal et qui se réveilleraient soudainement quand la situation est gravissime. Nous avons tous, d'une certaine manière, je parle en responsable politique, une certaine part de responsabilité dans cette situation budgétaire. Le déficit structurel, la perte de contrôle dont je parlais tout à l'heure, elle vient de loin. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur tous les grands sujets de notre pays, nous sommes au bout du rouleau. Vous connaissez ma liberté de parole, et elle est d'autant plus grande désormais que je suis un député non inscrit, avec tout le confort que cela peut comporter. Aussi, les combats que j'ai menés par le passé, je les mènerai demain, quel que soit le gouvernement. Et je dirai les choses avec la même franchise. La première des franchises, c'est de dire que cette idée selon laquelle on pourrait sauver le prochain budget en rabotant ici ou là les dépenses est une erreur gigantesque. Nous n'en sommes plus au temps des rabotages. Nous en sommes au temps des réformes en profondeur. Prenons trois exemples concrets. Il a été évoqué tout à l'heure la taxe sur l'électricité à laquelle je me suis opposé en commission il n'y a pas plus tard que 48 heures. Sur ce sujet-là du coût de l'énergie, voyons bien que la solution ne peut pas être à l'augmentation de la taxe sur la taxe, que le vrai sujet, c'est la question du marché européen de l'électricité, dans lequel nous sommes depuis tant d'années et qui nous coûte largement depuis presque 10 ans. Le vrai sujet sur l'électricité, ce n'est pas d'augmenter la taxe, c'est de se demander si demain nous voulons enfin réinvestir dans l'énergie nucléaire pour retrouver la souveraineté énergétique que nous avions bâtie à l'après-guerre. Tout le reste, c'est de la littérature. Prenons la question des collectivités. Je suis d'accord, Serge. C'est une erreur de vouloir affaiblir les moyens et des régions et des départements. Mais, puisque je suis franc, c'est aussi une erreur que lorsque les parlementaires votent la loi, votent pour que des dispositifs sociaux, souvent hors de contrôle, soient plus rigoureux. C'est une erreur que les collectivités et certains départements disent qu'ils n'appliqueront pas la loi, qui aurait pu leur permettre de faire des économies justes. Au fond, il faut que nous ayons cette juste cohérence-là. Et si je suis d'accord pour que nous ne réduisions pas les moyens des départements et des régions, je sais aussi qu'il faudra en venir à une plus grande réforme.
Une minute.
Et qu'au fond, cette plus grande réforme, elle est sûrement de réunir ce qu'est la région et ce qu'est le département. De retrouver sur la proximité du département ce qu'est le mandat régional. Enfin, et je prendrai 2 minutes de plus, je veux vous parler d'un autre sujet, plus important peut-être encore, qui est celui de la fiscalité. Oui, la fiscalité n'est pas un problème en soi. Elle est ce qui contribue à faire notre pacte social. Encore faut-il que cette fiscalité ait du sens. Or, aujourd'hui, elle ne l'a plus. Pour une raison simple, c'est que dans ce pays, nous taxons et nous fiscalisons très fortement le travail et nous sous-fiscalisons et nous sous-taxons ce qui relève de la rente. Le véritable sujet est là. Tant que nous n'aurons pas creusé un écart juste et raisonnable entre ceux qui produisent des efforts pour notre propre pays et ceux qui en produisent moins, nous ne réussirons pas à refonder le pacte social. Tous ces sujets-là, ce sont des combats que, au-delà de nos postures politiques, nous pouvons avoir en commun. Et ce sera ma conclusion. À l'heure où nous en sommes, la seule position possible est celle de tout reprendre à la base. Le moment où nous en sommes est un moment où il faudra, sur les grandes valeurs, que nous soyons à nouveau des bâtisseurs. Mais je voudrais nous faire une recommandation à tous, qui s'applique à moi comme aux autres. Dans ce moment-là, nous ne devons pas jouer double jeu, ni dans nos alliances politiques, ni dans nos positionnements politiques. Je ne suis pas parfaitement satisfait de ce que ce gouvernement propose. Et autant que possible, je me battrai pour faire entendre la voix qui a toujours été la mienne et qui est celle du territoire. Mais, dans mes cauchemars les plus grands, j'imagine ce qu'aurait pu être un gouvernement dirigé par la fureur que d'autres incarnent à l'Assemblée nationale et avec qui certains se sont alliés. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que toutes celles et ceux qui aiment la République, qui aiment ce pays, se rassemblent et se réunissent. Tout le reste, c'est de la posture. Nous n'en sommes plus là, et vous les maires, vous les élus que vous êtes au-delà de nos différences politiques, vous savez qu'il n'y a qu'une chose qui compte, ce sont les actes, pas les promesses, pas les paroles vaines. Vive le Lot, vive la République et vive la France.
Merci Aurélien Pradier, merci monsieur le député, merci aux parlementaires, merci au président du conseil départemental.